Actu SF, les podcasts.
Donc bienvenue à tous pour cette table ronde consacrée à d'hier et de demain, donc ville d'imaginaire, hein, autour des villes et de l'imaginaire de la ville. Nous avons donc aujourd'hui quatre intervenants, donc Pierre Bordage, qui est un des plus grands écrivains actuels de l'imaginaire en France depuis les années 90, producteur de chefs-d'œuvre aussi bien en SF qu'en fantasy, a obtenu de nombreux prix, dont le prix Cyrano en 2016, le prix Extraordinaire des Utopiales en 2017 et le prix Imaginal pour Arcane et sa ville donc de fantasy en 2018. Nicolas Depouteau, donc qui est architecte de formation, qui a travaillé pour l'agence de Jean Nouvel, qui est aujourd'hui maître de conférence à l'École nationale d'architecture de Nancy, qui nous apportera son regard peut-être de spécialiste et puis peut-être moins de créateur que de professionnel. Laurent Gapaillard, qui est ancien élève de l'École du Louvre, mais surtout diplômé de Penningen, l'Académie Julian à Paris, illustrateur et dessinateur talentueux, créateur d'un imaginaire qui est tout à fait fascinant et singulier. Je vous conseille absolument d'aller voir l'exposition à la BMI qui s'appelle « Au pays des sept nervures ». C'est vraiment très, très original et extrêmement... Je trouve ça assez troublant, d'ailleurs, une ville légumes ou une ville fruits. Donc, allez-y. Et il a été exposé au LACMA à Los Angeles. Et Armel Gomme. C'est ça, Armel, oui, c'est ça. Je ne me trompe pas. Donc, c'est un illustrateur français qui travaille pour l'édition Jeunesse et qui est lui aussi diplômé de Penningen. Il a reçu l'enseignement des plus grands maîtres de l'illustration, dont Alan Lee ou John Hove. Et il enseigne aujourd'hui à Penningen le dessin classique et la perspective. Voilà. Alors, la première question que j'avais envie de vous poser à tous les quatre, c'est est-ce que vous pouvez nous donner votre définition de la ville idéale en tant qu'écrivain, qu'architecte et illustrateur.
Il y en a toujours un qui s'y colle. Hein. Ça tombe sur moi. Donc bon, ma définition idéale de la ville, je ne sais pas si j'en ai une. Je suis un campagnard. En fait, je suis né dans une ferme isolée. Donc la ville, pour moi, j'ai découvert ça très très tard. Je crois à l'université à Nantes. La première fois que j'y vivais vraiment dans une ville. Et j'y ai vu plein d'attraits aussi, il y a plein d'attraits dans la ville, hein. C'est-à-dire il y a une offre culturelle importante, une offre de monde, enfin de croisement de personnes qui est importante. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir aussi à vivre dans la ville. J'ai vécu ensuite à Paris quelques temps. Bon, mon attrait pour la ville a commencé à décliner un petit peu. Et je me suis vite retrouvé à la campagne parce que, bon, voilà, c'est quelque chose que j'avais en moi, je suis né là-dedans, donc on ne peut pas échapper à son destin de campagnard. Alors la ville idéale, je ne sais pas s'il y a une ville idéale, mais pour moi, elle se rapprochait beaucoup de ce qu'avait fait Skuyten, Luc, je crois, qui avait fait des villes végétales, proposé des villes végétales. C'est une ville où on respire, une ville où on n'est pas obligé de prendre des transports en commun qui durent une éternité. Une ville où on peut se nourrir avec une autonomie certaine. Donc probablement que cette ville correspondrait à une dimension verticale et avec en haut de la ville des possibilités de faire des cultures et de nourrir les habitants de la ville. J'ai vu aussi les travaux de Le Corbusier, la Cité radieuse à Nantes. C'était intéressant, les gens qui vivaient dedans, c'était pas très très joli à voir comme ça de l'extérieur, mais les gens qui vivaient dedans avaient l'air très contents d'y vivre. Il y avait l'école qui était tout en haut, il y avait des notions qui étaient complètement différentes de ce qu'on connaissait de la ville. Et je pense qu'il y a une sorte de mélange comme ça de cette dimension verticale et de cette dimension végétale qui pourrait peut-être solutionner le problème de la ville et être agréable à vivre.
Il y a eu une très belle exposition à Arc-et-Senans justement sur la ville végétale ouais. Que tu évoquais l'année dernière. Hein. Ouais. Je pense que ça doit être encore sur Internet, hein, tout à fait. Donc l'architecte.
Oui, merci pour la question, qui est une question purement rhétorique, bien sûr, parce que la ville idéale, elle n'existe pas plus que la belle-mère idéale ou le fils idéal ou la femme idéale ou le mari idéal, d'ailleurs. Donc je sais pas, j'ai pas mal voyagé, j'ai eu cette chance et pas mal d'opportunités, et finalement la ville La ville que j'ai préférée, c'est la ville de Tokyo. Alors, est-ce que c'est la ville idéale? Je ne sais pas. Mais c'est une ville où, en tout cas, quand on y va, comme j'y suis allé, c'est-à-dire avec ma culture d'occidentale, est quelque part une ville idéale parce que c'est une ville dans laquelle on se sent bien, malgré le fait qu'elle soit très urbaine, ce caractère très urbain, très, très urbanisé, avec beaucoup de monde. Et pourtant, une grande... beaucoup d'endroits où on peut se sentir très bien, et avec beaucoup de découvertes et beaucoup de surprises. Donc voilà, pour moi, la ville idéale, je partirais de cette expérience que j'ai eue de Tokyo pour filer sur qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans la ville pour qu'on y soit aussi bien qu'à Tokyo. Bon, je ne faut pas non plus penser que c'est Tokyo n'est pas la ville idéale, mais c'est peut-être celle dans laquelle on peut puiser pas mal de choses pour la ville de demain.
En fait, je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas vraiment si j'ai une idée de la ville idéale parce que j'ai trop d'images contradictoires dans ma tête. Quand je pense à une ville, la ville, c'est à la fois un endroit où on vit et en même temps, c'est une image mythique, une sorte de fantasme. Pendant l'histoire, il y a eu des villes qui ont fait élever les gens, qui sont. Il faut un peu des deux, en fait. Il faut bien qu'il y ait une vie pratique qui se déroule dans cette ville pour que les gens souffrent pas trop et règlent leurs problèmes. Et en même temps, quand ils participent d'un imaginaire et que cet imaginaire est présent, ça peut générer une sorte de plaisir ou de joie de participer à ça. Alors. Ça dépend des personnalités aussi, parce qu'en fait, voilà, c'est une question de contexte, parce que les gens sont très différents. Il y a des gens qui se font des films dans leur tête, qui s'inventent des histoires. Il y en a d'autres qui ont une vie plus pratique. Et du coup, elle va être idéale pour qui, cette ville, en fait est-ce que... Et par exemple, quand c'est un exemple assez d'actualité, quand Notre-Dame qui vient de brûler, bon voilà, c'est un fantasme urbain, c'est-à-dire c'est une métaphore de la ville. Au Moyen-Âge, la cathédrale, c'était le bâtiment qui symbolisait la ville. Donc on voit l'impact que ça a sur les gens et la capacité que ça a. En fait, ça se voit quand il y a un problème. Quand il y a un problème, on réalise que tout d'un coup, les gens tiennent à quelque chose dans la définition, dans l'identité de la ville. Mais si on pose la question... brut de fonderie comme ça au quotidien, les gens vont pas, ça va pas leur venir à l'esprit. Donc c'est dans la perte qu'on réalise parfois où est l'idéal et on vit en fait au sommet d'une stratification de choses exceptionnelles, surtout dans nos villes en France qui sont quand même assez exceptionnellement belles parce qu'elles sont héritières d'énormément de déposites, de strates d'histoire et de beauté. Qu'en fait, si on en enlevait des bouts, en fait là tout d'un coup on se mettrait à réaliser qu'il nous manquerait plein de choses. Voilà, donc la ville, historiquement, c'est un accélérateur de possibilités parce que les gens se retrouvent et que tout d'un coup, ça accélère les voies de communication, les informations. Il y a quand même un peu de ça, à mon avis, dans ma vision de la ville idéale. Il faut que ce soit un lieu où il y ait une sorte de brainstorming de ville. Ça doit être vivant et ça doit être un bouillonnement, quoi. Ça, c'est mon point de vue. Des échanges d'idées, des échanges de cultures et du rêve, ça fait rêver les gens à l'extérieur, quoi. Les gens ont envie d'y venir. Après, ils emmènent des idées et ils repartent, quoi. Et c'est, quand on pense à Athènes, à Rome ou à d'autres villes historiques comme ça, c'était vraiment ça qu'il en restait, quoi. Ouais, mon avis de
vite. Ouais. Mais merci beaucoup. Donc, Armel.
Moi, je ne sais pas non plus si j'ai vraiment une idée très claire de la ville idéale. Peut-être que je différencierais en fait finalement ce qui s'est rapproché pour moi le plus de la ville idéale dans la réalité, celle que j'ai pu voir, et puis des villes qui ne sont qui sont parfois réelles, parfois pas tout à fait réelles, et qui sont chargées parfois d'une charge symbolique qui les dépasse. Parfois même, pour moi, la simple évocation d'un nom peut me faire complètement rêver, au-delà de la réalité même. C'est-à-dire que moi, j'entends Carthage, Samarcande, ça me fait complètement voyager, ça me fait rêver. Peut-être que la réalité même de Carthage et de Samarcande ne m'emmènera pas aussi loin, quoi. Sinon, bon, évidemment, dans la ville réelle dans laquelle je me suis senti le mieux et où je retourne souvent, moi je voyage finalement très peu. Mais quand je voyage, je vais quasiment toujours aux mêmes endroits. Parce que j'aime venir picorer un petit peu à chaque fois des choses. Et je crois que pour moi, c'est Venise. Une ville finalement à taille humaine, dans laquelle on peut tout faire à pied. Il est même préférable de tout faire à pied. Une ville pas tellement rationnelle. Ça me plaît beaucoup. Finalement, il doit y avoir trois ponts classiques sur le Grand Canal et puis un pont moderne. Donc ça oblige à faire des tas de circonvolutions, de méandres dans tous les sens pour se déplacer, puis aussi pour éviter les flots de visiteurs. Donc on se retrouve à se perdre très facilement. Et pour moi, c'est aussi une des qualités de la ville, c'est pouvoir se perdre. J'ai beaucoup de mal. Moi, j'habite à Paris. Donc c'est très pratique, je visualise parfaitement bien, je me déplace tout le temps à vélo, je visualise parfaitement bien une sorte de plan 3D de la ville pour aller très vite d'un point à un autre quand j'ai un rendez-vous ou des choses comme ça. Mais fondamentalement, je préfère une ville dans laquelle je vais me perdre. Je vais me perdre, je vais découvrir des trucs, je vais venir justement profiter pleinement de la promenade. Pour moi, la promenade est très importante. Et aussi à Venise, il y a une chose qui me plaît beaucoup, qu'on trouve aussi à Rome, mais moins... C'est une plus grande ville, il y a beaucoup d'agitation. C'est justement toutes ces strates, un petit peu comme de la géologie, qui vont nous donner un aperçu de comme des palimpsestes. On a l'impression qu'il y a des parties qui ont été effacées, qui ont été réécrites, qui ont été rebâties dessus. Et finalement, ça fait une espèce de sorte de millefeuille composite où il y a toujours des choses à voir, à apprécier, à aimer. Et qu'on a l'impression qu'on n'en a jamais fait le tour, quoi. Donc ça, c'est quelque chose avec... Moi, je me souviens, j'avais été très marqué par la lecture d'un livre de Gordon Cullen qui s'appelle The Concise Townscape. Et, il insistait beaucoup sur toutes les petites qualités, parfois un petit peu laissées de côté de la ville, c'est-à-dire les textures, la qualité d'un pavage, la qualité même d'une petite barrière, d'un garde-corps, de la simplicité de toutes ces choses-là, d'un petit muret de pierre. Et toutes les qualités esthétiques qui pouvaient en découler. Et donc voilà, pour moi, à Venise, il y a toutes ces choses-là qui se juxtaposent avec une harmonie et puis à une échelle tout à fait agréable pour un homme, quoi.
On va repasser le micro, peut-être. Alors justement, si je vous ai posé la question de votre ville idéale, déjà se dessine quand même quelques traits, alors, sauf peut-être pour Pierre qui est plutôt, on va dire, de la campagne, peut-être plus proche de la nature que de l'espace urbain. Mais en fait, la ville, l'imaginaire des villes, naît surtout dans le contexte évidemment utopique. Et c'est pour ça qu'on a très souvent en fait cet imaginaire de la ville qui va être stimulé par la créativité. Et c'est la question que je voulais vous poser justement après. Alors bon, vous avez peut-être un petit peu commencé à y répondre, mais pourquoi est-ce que finalement la ville, elle est stimulante pour l'imagination? Parce que Pierre, dans Arcane, justement, on a une ville de fantaisie, et c'est d'ailleurs peut-être assez rare en fantaisie d'avoir l'action qui se passe dans une ville de fantaisie.
Bon, je vais nier tout ce que j'ai dit tout de suite. J'en ai rien à foutre des tours, en fait. Ce que j'aime dans les villes, c'est les pavés, la vieille pierre, les petites ruelles, l'ombre. J'aime beaucoup flâner. Alors, comme tu disais, me perdre dans une ville, j'adore ça aussi. Et souvent dans les petites ruelles qui semblent aller nulle part. Je me suis perdu dans la médina de Fès, par exemple, qui est une ville marocaine avec la plus grande médina du monde arabe, et où si on n'a pas de guide, on se perd systématiquement. Donc ça me plaît beaucoup aussi. Et oui, ça suscite l'imaginaire parce que, surtout pour quelqu'un comme moi, qui suis provoqué à un univers de pierre, vraiment minéral, purement minéral, et qui vient plutôt d'un univers de végétal, j'ai l'impression que la ville, c'est effectivement le lieu de tous les possibles, parce qu'il y a le plus de gens rassemblés possible et de toute nature dans cet espace clos. Et que soit le danger, soit l'émerveillement peut surgir à chaque porte, à chaque détour, dans chaque cour. Il peut y avoir des choses étonnantes, surprenantes, effrayantes. Et c'est ça, ça me plaît énormément. Et pour Arcane, j'ai voulu pousser le concept jusqu'au bout, c'est-à-dire, en fait, c'est une ville qui illustre un peu la séparation sociale. Je me suis basé sur les lois de Manu indiennes, hein, qui ont institué le système des castes. Et j'ai fait des niveaux Évidemment, le plus haut étant occupé par les familles les plus prestigieuses et le pouvoir. Et à fur et à mesure qu'on descend de la ville, qui est sur 7 niveaux, on descend dans les bas-fonds de la cité. Et chaque niveau est séparé par un labyrinthe. C'est une cité de nature magique. Chaque niveau est séparé par un labyrinthe de nature magique aussi, où il faut absolument des guides, des torcherons, pour pouvoir traverser le niveau. Sinon, on s'y perd et on y meurt. Donc voilà, tout ça m'intéressait. C'était une sorte de concentration de tous les dangers, toutes les possibilités de la ville. Et je voulais vraiment illustrer cette séparation où il y a une population très, très nombreuse et vraiment séparée, cloisonnée avec ces labyrinthes. Donc c'était ça qui avait excité mon imaginaire plutôt dans la ville. J'avais vu aussi
une ville-société un peu.
Ouais, une ville-société. J'ai beaucoup été impressionné par les villes asiatiques comme Bombay à l'époque où j'ai visité dans les années 70. Bombay, Delhi, toutes ces grandes villes, Calcutta, toutes ces grandes villes indiennes, qui m'avaient fasciné par leur espèce de grouillement et le fait aussi que l'inattendu pouvait se produire à n'importe quel moment. Mais n'importe quel moment, vous faisiez 10 mètres, il y avait quelque chose d'étrange à voir d'un seul coup qui surgissait d'un immeuble. Vous aviez une procession d'un mariage avec un éléphant, un dromadaire ou un chameau plutôt, un peu plus loin. Et puis là il y avait... Il y avait une rue de mendiants, et puis là, il y avait une rue, on sait, une coupe-jarret un peu. Là, il y avait Falkland Road, qui est la rue des cages, des prostituées qui tendaient la main à travers les grilles pour essayer de vous agripper, etc. Et c'était une sorte de succession de surprises permanentes. Et c'est ça que qui m'a le plus intrigué, le plus intéressé dans la conception d'Arcane.
Et donc, en architecture, alors, pourquoi est-ce que c'est si stimulant de travailler sur la ville? Parce qu'on peut partir de la structure basique, la maison, mais après, il y a l'autre échelle.
Pour un architecte, la ville, c'est presque peut-être son domaine, la ville, parce qu'on construit pour des usages, pour des gens, et la plupart des gens aujourd'hui, et de plus en plus, vivent dans des villes. Alors bon, évidemment, on construit aussi dans les campagnes et des maisons isolées. Mais tout à l'heure, Laurent a parlé de la ville comme étant des accélérateurs de possibles. Et je crois que c'est tout à fait ça, quoi, une excellente définition de ce que c'est qu'une ville et de ce que c'est qu'une ville idéale. Et donc, de ce qui peut être stimulant dans une ville, c'est que on y va et on sait que ça va se passer de façon plus concentrée ou plus rapide. Alors, par rapport à des services, on aura plus de services qu'on en a dans telle ville ou dans telle autre, ou dans la ville par rapport à la campagne. Et puis, comme vient de le dire Pierre aussi, par rapport à des étonnements, par rapport à des possibles qu'on ne mesure pas, positifs ou négatifs. Alors, bon, c'est sûr, quand on est touriste ou quand on a une vie un peu rangée ou conventionnelle, on préfère être plutôt interpellé par les choses positives et jolies, mais c'est vrai que la ville, c'est aussi ces choses qui nous interpellent et ou qui peuvent nous inquiéter et qui nous remettent en question. Donc voilà, l'architecte, la ville est fascinante pour tout ça. Alors tout à l'heure, Pierre a cité Le Corbusier qui a été d'une génération d'architectes où ça ne les dérangeait pas de dessiner des villes pour 10 millions, 3 millions, 30 millions d'habitants, avec des théories assez simples et directes. Bon, aujourd'hui, on est beaucoup plus mesuré par rapport à ça. Je pense que ça ne se fait plus ou plus du tout sous ce mode-là. Et quand même, quand on est dans les Vosges, citer ce projet de Le Corbusier pour Saint-Dié, que vous connaissez, je pense, pour beaucoup, qu'il faut regarder, surtout quand on connaît Saint-Dié ou quand on est à Saint-Dié. Voilà, alors ça, c'est peut-être des côtés fascinants, mais un peu inquiétants de ce que peut du projet d'un architecte pour une ville. Mais bon, c'était quand même il y a quelques dizaines, plusieurs décennies, et aujourd'hui, on ne fait plus tout à fait les mêmes choses. Voilà.
Alors, justement, pour les illustrateurs, donc Armel et... pardon, c'est... Laurent, voilà, pardon. Et Laurent, quel est votre imaginaire de la ville, en fait, en tant qu'illustrateur? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez envie de créer comme type de ville? Alors, Laurent, je pense notamment à votre belle exposition où on a en fait une ville à partir d'éléments végétaux. Donc, qu'est-ce qui vous a donné finalement envie de créer ce type de ville? Et pourquoi vous avez voulu créer justement ce type de ville?
Ben, en fait, la ville, c'est une évidence dont on fait l'expérience tous les jours, et c'est le summum de l'artificialité, c'est-à-dire que c'est la création d'une civilisation quand elle en arrive à se concentrer. C'est l'antinaturel par excellence. Et dans le cadre de cette exposition, la ville est présentée justement comme un processus naturel. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que dans le développement du monde, c'est fatal qu'à force de générer des occurrences et des interactions, des êtres intelligents vont apparaître. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, c'est juste un développement d'une pensée. Et en fait, ils vont s'organiser, au bout d'un certain temps, ils vont se concentrer. Et ils vont construire des villes. Donc, en fait, les villes, c'est les termitières des humains, en quelque sorte. C'est comme si, finalement, c'est un développement naturel, en fait. Et ce qui m'a intéressé donc, dans ces dessins, c'est d'explorer comment on peut exprimer le développement d'une civilisation en montrant que, finalement, ça ressemble à des formes de vie naturelles ou à des forces géologiques. Donc, dans le contexte de cette exposition, j'ai eu plusieurs approches. J'ai fait des villes islamiques en forme de géode qui ressemblent à des concrétions de cristaux, en fait, parce que là, tout simplement, la forme des minarets m'a posé cette forme-là. Et ça, en fait, j'ai même pas d'explication rationnelle. C'est juste que c'est une espèce d'image qui me hante et que j'ai vu une géode avec des minarets islamiques. C'est à la fois une façon de représenter, de rendre hommage à cette architecture qui est déjà en elle-même assez cristalline et minérale. Et en même temps, une façon, en proposant quelque chose d'assez déroutant, de la voir comme si on ne l'avait jamais vue, c'est-à-dire de la revoir dans ce qu'elle est vraiment. Parce que c'est vrai que dans notre expérience, on a tendance à banaliser beaucoup les choses. Et tout d'un coup, présenter les choses d'une façon incongrue, ça nous oblige à les re-regarder. Et c'était un peu ça, sans doute. Et sinon, j'ai fait des villes qui se stratifient, qui sont pliés par la géologie. Et donc là, l'idée, c'est d'évoquer justement ce que disait Armel quand il parlait de stratification, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la longue durée, les civilisations, en fait, elles sont construites sur des couches d'oubli complètement folles. Et c'était une façon de rendre visible l'oubli qu'il y a dans l'histoire en pliant une ville pour qu'on se pose la question... éventuellement, mais quand est-ce qu'elle a été construite, quoi ? Depuis quand les humains peuvent construire des villes ? Et voilà. Enfin, et sinon, les villes végétales, alors là, c'est tout simplement que la croissance végétale, c'est le développement historique.
Ouais, il y a l'exponentielle aussi, peut-être. Non, dans le...
Oui.
Il y a un modèle mathématique, moi j'ai l'impression un peu, non, dans votre...
C'est vrai qu'il y a un développement un peu fractal, mais c'est aussi... Alors, c'est-à-dire qu'effectivement, chaque personne contient chaque citoyen, c'est en lui-même une sorte de mini-ville. Et la ville, c'est la somme de tous ces infinis qui cohabitent ensemble, quoi. Donc, c'est un peu une éclosion de possibilités, comme on disait auparavant. Et puis c'est aussi l'histoire qui avance et qui sélectionne en fonction des priorités du moment, ce qui va s'exprimer ou pas, donc la direction que vont prendre les événements. Et donc on a une ville qui se développe et qui pousse comme d'ailleurs on le dit, ça grossit, ça se développe, ça pousse. Il y a un langage végétal de l'urbanisme, en fait. Donc j'ai juste collé à la lettre, en fait. Je suis resté littéral par rapport à ça. Voilà.
Merci Laurent. Alors Armel, à vous. Donc une ville plutôt onirique ou une ville plutôt minérale dans votre imaginaire ?
En fait, dans mon travail, j'essaie de me projeter dans un imaginaire qui en fait n'est pas directement créé par moi. C'est-à-dire que j'adapte souvent des textes littéraires. Là, je viens de sortir donc L'homme qui voulait être roi de Kipling. Je fais la même chose avec Lovecraft pour la rentrée. Et c'est essayer de donner corps, finalement, quand il y a la ville, mais tout le reste, finalement, à un cadre. C'est un cadre qui va servir presque comme une scène de théâtre à raconter une histoire. Et une histoire qui est née dans la tête de quelqu'un d'autre, un écrivain, en l'occurrence. Et pour moi, cette attention au cadre, elle peut se faire de plusieurs manières différentes. On peut, comme un touriste, être vraiment attiré par... le monument, le spectaculaire, ce qui effectivement est presque inoubliable et imposant. Mais aussi, on peut visiter ces endroits-là comme si on était un habitant, comme si on vivait vraiment là. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et c'est pour ça, tout à l'heure, que je parlais du livre de Gordon Cullen. car il donne justement toute son importance à ces éléments de texture, ces éléments, tous ces éléments visuels qui vont entrer en ligne de compte, et qui sont pas négligés, mais qui sont tout aussi intéressants finalement que les bâtiments les plus spectaculaires. Moi, à Venise, je suis aussi, je parlais de Venise tout à l'heure, je suis aussi émerveillé par trois petites marches qui descendent dans une eau vert un petit peu passé, avec des briques qui commencent à s'effriter et un encadrement de pierre blanche, que par le côté magnifique de la Cadoro ou de plein ou du pont de l'Académia. Donc vraiment, c'est pour moi, c'est toutes ces petites choses là. Comme quand on a vécu très longtemps dans un endroit, finalement, où on, moi, je connais des tas de gens qui, comme moi, vivent à Paris et puis ils sont jamais allés visiter les grands monuments. Ils s'en fichent. Mais on arrive quand même à retrouver l'essence d'un lieu. Et donc moi, c'est ce que j'essaie de trouver. C'est l'essence de lieux qui, a priori, n'existent pas, puisqu'ils sont littéraires, mais qui passent par toute cette collection de petites couches visuelles, de petites couches que moi, je peux représenter en tant qu'illustrateur. Il y a plein d'autres éléments que je ne peux pas dessiner. Je ne peux pas représenter les odeurs, les sons, et tout ça. Mais en tout cas, tous ces éléments-là visuels, la manière dont la lumière va révéler des formes, va raconter les formes. C'est ça qui me stimule le plus et qui donne aussi souvent une impression, justement, de parfois donnée par l'usure, mais aussi par l'usage des choses. C'est-à-dire que je pense par exemple à certains endroits qui, moi, quand j'étais petit, m'ont fasciné. J'étais fasciné par le château Saint-Ange à Rome, parce que justement, il y avait toutes ces couches historiques qui se succédaient. Il y avait le mausolée d'Adrien, puis le château Saint-Ange, puis des maisons qui avaient été bâties dessus. Et voilà, donc des choses usées. Puis en même temps, la vie avait imposé que finalement, on aille récupérer des pierres, on va bâtir une maison dessus. Et donc on retrouvait très bien dans les gravures de Piranèse. On voyait bien qu'il y avait des bouts de monuments qui restaient. Et puis on avait accolé une maison dessus. Enfin, voilà, la vie, elle continuait de faire vivre la ville, justement. En dépit de la préservation, de l'embellissement des choses. Et la même chose aussi avec le temple d'Adrien à Rome, moi qui m'a stupéfait, parce que c'est pas grand chose, c'est essentiellement des colonnes comme ça qui émergent d'une façade, presque comme des pilastres, mais ils sont à un coin de rue, on s'attend pas du tout à les voir, et d'un coup ça change radicalement le rapport d'échelle. C'est-à-dire qu'on est dans des rues avec des immeubles qui font tous plus ou moins les mêmes dimensions, la même hauteur sous plafond. Et puis d'un coup, à la place d'un immeuble, il y a effectivement un immeuble, mais il est encastré presque dans des colonnes gigantesques. Et donc d'un coup, on bascule dans une autre perception des échelles.
Alors on voit, c'est la ville, c'est quand même une question qui est quand même assez complexe, et je dirais que l'humain a quand même un rapport finalement difficile, paradoxal avec la ville, parce qu'on aime bien construire la ville, mais on aime bien la détruire aussi. Alors ça, c'est peut-être pour faire le lien un peu avec ce qui était dans la table ronde précédente, hein, sur l'apocalypse. Mais au final, et là je m'adresse aussi à l'architecte, au final, en architecture, il y a beaucoup de mouvements, évidemment, qui vont se succéder. On va construire des couches dans la ville différentes. Mais la ville est à la fois humaine et inhumaine. Elle fait partie de l'humanité. Pourtant, on aime bien la détruire. Alors Pierre, peut-être en tant qu'écrivain, et puis tu as déjà écrit des apocalypses, peut-être pas des villes complètement détruites, mais enfin, il y a quand même certains de tes romans qui parlent de la destruction des villes de façon sous différentes manières. Comment est-ce que tu vois ça, toi ? Est-ce que finalement, la ville, on l'aime, on la déteste, et pourquoi est-ce qu'on la détruirait dans la création ?
Peut-être parce qu'elle est le symbole de l'orgueil humain, je ne sais pas. Comme la tour, d'ailleurs, et puis ces remparts, tous les sièges des villes célèbres, etc. Je ne sais pas. Je suis probablement aussi très intéressé par l'esthétique de la destruction. Ça m'intéresse de détruire pour reconstruire. Aussi parce que...
Tu serais fasciné par... une esthétique de la destruction en tant que...
Ah, si je fais du post-apocalyptique, oui, c'est évident qu'on ne peut être que fasciné par une esthétique de la destruction, sinon je ne vois pas trop l'intérêt. On ferait ça pour se faire mal. On peut peut-être, ça sert d'avertissement pour les générations futures en disant, si on va dans cette direction, on risque de détruire tout, mais ok. Mais quelque part, oui, il y a une espèce de, d'aspects fin des temps, destruction, renouvellement, etc., qui hantent chaque auteur de science-fiction, parce qu'on travaille sur l'échelle du temps, et à l'échelle du temps, ça finit toujours par des destructions à la longue, hein, ça finit toujours par être morcelé, fragmenté. Le jour où mon fils m'a parlé des temples d'Angkor, il me dit ce qui est extraordinaire, c'est cette espèce de mélange de végétal et de minéral qui est étroitement imbriqué, qui donne une beauté incroyable à l'ensemble. Donc, il y a le temps qui passe, et puis voilà, moi j'ai détruit quelques villes. Je ne parlerai pas d'Arcane parce que je ne vous dis pas la fin, je ne peux pas vous dévoiler la fin, mais. Parce que je pense que ces espèces de refuges qui sont nés de la sédentarité, finalement. Je pense que la ville vient des civilisations mésopotamiennes et tout ça, les grandes villes comme Ur et Babylone et tout ça, toutes ces villes qui représentent un peu la civilisation, la protection, comme une tentative d'arrêter le temps avec ces remparts qui sont autour et tout ça, qui veulent empêcher le temps de passer. Mais non, ça n'empêche rien. Elles finissent tous par disparaître d'une façon ou d'une autre, comme notre civilisation finira par disparaître. Comme là, j'ai vu récemment la ville de Shenzhen qui est passée de 40 000 habitants à 20 millions en 40 ans. C'est très spectaculaire. Il y a des tours partout sur une centaine de kilomètres. Et cette ville finira par disparaître aussi. C'est ça qui est fou. Le temps a raison de tout et aussi bien de la ville que du reste. Donc j'aimais beaucoup les civilisations nomades pour ça, parce que les civilisations nomades partaient sans rien laisser. Pour moi, c'est le symbole, c'est le summum de la civilisation, c'est de partir sans rien laisser. C'est-à-dire partir en effaçant toutes ses traces. Or, les humains ont cette tendance à vouloir laisser des traces absolument. Et c'est souvent dans le monument, dans le dur, dans le minéral qu'on laisse des traces. Et ces traces finiront par disparaître. C'est une illusion de croire que les murs peuvent résister au temps. De la même façon que toutes les murailles qui ont été dressées de tous les temps, partout, pour empêcher les invasions, n'ont jamais servi à rien. Mais cette espèce de fantasme qui fait qu'on va bloquer le temps, on va suspendre le temps, autant suspendre ton vol, n'est-ce pas ? Et c'est la ville et son aspect minéral solide de pierre qui va faire ça. Et je pense que moins, finalement, c'est toujours la nature qui reprend ses droits dans toutes les circonstances. C'est ça qui, peut-être, qui m'intéresse dans la fin des temps, la destruction des villes, c'est l'espèce de recommencement, d'aller au bout d'un cycle, puis de recommencer autre chose, et puis de commettre les mêmes erreurs, et puis de retomber, etc. etc.
Mais le cinéma, par exemple, est friand de cette esthétique de la destruction.
Il y a la fin de Game of Thrones, enfin, je n'aurais pas défaulé pour se faire boucher vos oreilles.
Non, ne spoil pas, Pierre, s'il te plaît.
Non, mais il y a quand même une belle destruction de ville, quoi. C'est un épisode quasiment de destruction, quoi.
Sinon, on va te demander un spoil sur Arcane, hein. Attention.
mais les gens, ils n'écoutent pas, ils mettent maintenant ses oreilles. Mais non, voilà, c'est. Et après, on a eu tous ces bombardements à Dresde et pendant la Seconde Guerre mondiale. Toutes les villes du littoral atlantique français ont été détruites. On parle de Brest, on parle de Lorient, on parle de Caen, on parle de Royan. Toutes ces villes ont été complètement détruites. Enfin, je veux dire, la pierre, c'est aussi une illusion de solidité et de puissance. Et elle finit toujours par être détruite. C'est ça qui fascine les auteurs de science-fiction dans la destruction des villes. Ou de structures qu'on croit jamais établies et qui finissent toujours par céder.
D'ailleurs, dans les blockbusters apocalyptiques, c'est souvent, c'est Laurent, je crois, qui parlait de Notre-Dame de Paris, mais ce sont toujours les grands monuments, finalement, dans les villes emblématiques monde qui sont détruits en premier.
C'est symbole de pérennité humaine qui disparaît. Et ouais, c'est peut-être aussi dans l'incendie de Notre-Dame, il y avait cette espèce de constatation que oui... Non, Notre-Dame n'est pas non plus épargnée par la destruction, par les flammes, etc. Et elle peut être détruite comme n'importe quel monument et de n'importe quelle ville dans le monde.
Alors, les architectes...
Même chose pour, d'ailleurs, le 11 septembre, hein, avec les tours,
oui,
les avions.
Aussi. D'ailleurs, c'est la destruction de la modernité, finalement, hein, du contemporain. Alors, les architectes, comment est-ce que, finalement, en architecture, on voit ce... Est-ce qu'on essaie de lutter finalement contre le temps ou comment est-ce qu'on voit en fait le renouvellement des bâtiments, l'évolution en fait dans le temps d'une ville ?
Depuis peu de temps, on demande aux architectes, quand on leur commande un bâtiment, en particulier je parle de la commande publique, donc des bâtiments publics, on commence à demander explicitement, enfin nos clients, nos maîtres d'ouvrage, à réfléchir sérieusement, ou en tout cas concrètement, à l'avenir du bâtiment, quand l'usage qui lui est prévu ne sera plus celui qui sera nécessaire ou l'usage deviendra obsolète. Donc, est-ce qu'on pourra le transformer vraiment, hein, c'est pas juste de la pacotille, ou est-ce qu'on pourra le déconstruire ou le démonter sans trop d'impact. Donc ça, c'est assez récent dans les commandes d'architecture et même dans les écoles d'architecture par rapport au travail qu'on fait avec nos étudiants. Il y a une chose, alors je pense que dans la salle, il y a dû y avoir des bien meilleurs connaisseurs que moi des civilisations asiatiques, et en particulier du Japon. Mais la question patrimoniale, on la voit quand même avec notre optique, comme ça vient d'être dit, de la pierre, où on va marquer le temps avec nos monuments, avec nos réalisations, et c'est ça qui va faire patrimoine, et c'est ça qui restera aux générations futures. Ça, c'est quelque chose qui est très... occidentalo-centré au Japon ou en Asie, enfin, je ne vais pas généraliser, je ne suis pas encore une fois tout à fait spécialiste. Le patrimoine, ce n'est pas ça. Le patrimoine, c'est ce qu'on se transmet de personne à personne ou de société ou micro-société à autre. Et ce n'est pas du tout dans l'architecture. Ce qui fait que Tokyo, enfin, toutes les villes japonaises, à l'exception de deux ou trois, ont été absolument rasées par les bombardements américains et se sont toutes reconstruites. Toutes les villes japonaises ont été un jour ravagées par un incendie, parce que c'était des villes en bois. Elles ont été reconstruites, alors jamais à l'identique, mais jamais vraiment différemment. Et il y a une sorte de renouvellement qui s'opère. Et il n'y a pas effectivement une grande émotion comme il a pu y avoir pour l'incendie de Notre-Dame, parce que les temples, en particulier les temples historiques, sont toujours là, ils sont toujours reconstruits et il n'y a pas de problème. S'il y en a un morceau qui s'écroule ou qui est brûlé, on saura le reconstruire. On ne va pas se faire des débats sans fin comme on peut y avoir déjà pour Notre-Dame. On va le reconstruire avec et le temps va passer. Voilà, c'est sur cette question-là du patrimoine et de ce qu'on laisse. Donc, Pour conclure, les architectes aujourd'hui sont peut-être un peu moins attachés à cette idée qu'ils construisent pour, sans trop se poser de questions, que ça sera pour toujours. Non, on a fini bien par comprendre qu'on construisait pour maintenant quelques décennies et qu'il fallait y penser et anticiper là-dessus.
Et donc peut-être que, est-ce que ça va influer sur l'esthétique, par exemple, actuelle, avec plus de verre, plus de bois, plus de, donc des matériaux peut-être qui sont destinés à moins durer aussi.
Tout à fait, mais là, on voit, enfin, j'étais ce matin à l'Enstib, que vous connaissez pour tous les spinaliens, qui est à la fois magistral en termes de construction bois, puis qui à la fois est très magistral en termes de vieillissement. Et on voit bien que ces constructions en bois, quand on nous parle de construire en bois, on comprend tout à fait, quand on va à l'Enstib, qu'on ne construit pas en bois pour l'éternité, on construit en bois pour que ça soit maintenu, que ce soit éventuellement démonté, déconstruit, reconstruit, modifié, transformé. Donc, aujourd'hui, malheureusement, on construit... je pense que l'Enstib est un bon exemple, parce que il faudrait reconstruire ce bâtiment, mais sans que ce soit un drame. C'est normal, il est construit en bois, ses peaux sont en bois, donc elles s'abîment, elles changent, elles se transforment, donc il faut naturellement les changer. Pour l'instant, on construit avec cette technique ou ces intentions, mais en voulant quand même que ça dure longtemps et qu'on n'ait pas trop d'argent à investir pour la maintenance.
Oui. Donc en fait, on s'adapterait par rapport à ce que disait Pierre. On n'est pas contre finalement l'entropie via la pierre, mais peut-être on accompagne le flux du temps en architecture pour mieux coller. Alors justement, finalement, je vais donner la parole maintenant aux deux plus jeunes de cette table ronde. On a beaucoup parlé de végétal, de minéral dans ces pierres, et moi je voulais savoir tous les deux finalement qu'est-ce que vous aimeriez voir comme tendance dans la ville actuelle, ou qu'est-ce qui vous fait plaisir? C'est-à-dire, est-ce que dans vos promenades, par exemple, est-ce que vous aimez voir des éléments végétalisés de plus en plus dans la ville? Il y a beaucoup de villes, par exemple, qui font le choix aujourd'hui de laisser pousser un petit peu les mauvaises herbes. On les détruit plus systématiquement, on rajoute des petits îlots de végétation. Est-ce que ça, c'est pour l'avenir, c'est ce que vous voudriez, vous? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Sur la ville actuelle.
C'est pas évident. En fait, c'est vraiment du cas par cas. Quand on sort des idées générales, après, il y a un lieu, il y a l'histoire du lieu, et puis il y a la... En fait, c'est la façon dont les gens s'y organisent et s'y vivent. Je crois qu'une ville est agréable, bon, effectivement, tous ces aspects végétaux, tout ça, c'est bien. Mais ce qui compte, c'est qu'on sente qu'il y ait quand même une bonne interaction humaine et qu'en plus d'un dynamisme, il y ait une forme de convivialité qui émane de la vie dans la rue. Enfin, moi, c'est mon point de vue, après... c'est-à-dire qu'on se sente bien dans les rues. Alors le truc, c'est que ça peut prendre des milliers de formes différentes. Ça peut être un espèce de grouillement type souk oriental, ou alors au contraire une placette provençale avec une fontaine et des pigeons qui viennent se laver les plumes dedans, quoi. Donc et là, on les entend roucouler, c'est beaucoup plus calme. Mais en fait, on sait ce qu'on n'aime pas, mais alors définir l'idéal, c'est déjà s'enfermer un peu, parce que le problème, c'est que ça dépend vraiment des types de lieux, des types de climats. Une ville idéale en Russie, ben, elle ne sera pas la même qu'une ville idéale au Maroc, et en termes d'adaptation à notre époque. Mais déjà, je pense que ça pose quand même la question de la façon dont notre société est organisée, parce que la ville, elle n'est que le reflet de nos réseaux sociaux, enfin, pas virtuels, mais vraiment concrets, c'est-à-dire la façon dont finalement le travail est organisé, la vie de famille est organisée, et les gens, ils vont travailler. Donc ça pose la question de la voiture, des modes de travail, mais des modes de propriété, comment les gens vivent dans les lieux qu'ils occupent. Et notre société est très individualisée, crée des espaces d'anonymat total. Les rues, c'est des lieux où on passe, mais quand on est à Paris ou dans bien d'autres endroits, on a l'impression que si on nous parle dans la rue, c'est qu'on va avoir des ennuis tout de suite, quoi. Et voilà, on constate parfois des soucis au niveau de la sociabilité. C'est que nos villes sont anonymisées, mais par contre, savoir comment les régler, voilà, il y a plein de possibilités. J'ai pas la solution à titre personnel. C'est juste qu'effectivement...
Mais c'est ce dont vous auriez envie. Voilà.
Voilà.
Plus de convivialité, peut-être.
Oui, que les gens se sentent vivre ensemble, quoi. Après, qu'ils échangent davantage, quoi. Voilà.
Okay. Armel ?
Oui, moi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que je dirais que c'est un peu effectivement au cas par cas, que toutes les configurations sont pas transposables n'importe où. Mais je voudrais juste donner un exemple sur cette question de la présence végétale dans la ville. Moi, j'ai habité pendant 10 ans dans une ville, Orléans en l'occurrence, qui a été très bien restaurée. C'est-à-dire que c'était une ville assez grise, assez triste, pas très belle, avec un climat qui n'est pas forcément très, très facile, et qui a été magnifiquement refaite. Donc, mise en valeur justement de tout le patrimoine architectural. Moi, j'habitais une maison du 15e siècle en centre-ville qui était magnifique. Et j'étais ravi d'être là. C'était une maison à pans de bois antérieure à la découverte de l'Amérique. Donc, c'est quand même pas rien, quoi. Donc, on retrouvait ce côté strat qui, moi, me plaît beaucoup. Et en même temps, il y a eu des décisions prises sur l'identité de la ville. Et l'identité de la ville, par le travail, des architectes du bâtiment de France, enfin de la ville aussi, c'était que la ville devait être minérale. Et donc, il n'y a quasiment aucun arbre en centre-ville. Les quelques arbres qu'on aura en centre-ville, quelques-uns qui sont sur les quais de la Loire, et puis sinon, ce sont des arbres en pot. Parce que justement, on peut les retirer. Tout ce qui est temporaire ne demande pas les mêmes autorisations. Et c'est très très beau, mais à vivre au quotidien, c'est pas très agréable. En été, quand il fait très chaud, on n'a pas d'ombre. Enfin, plein de petites choses très bêtes, très simples, d'usage quotidien, font que finalement, les gens restent pas trop dans la rue. Ils vont essentiellement pour se déplacer d'un point A à un point B, mais restent pas. Et retournent chez eux, quoi. Et donc moi, ça, c'est vrai que la présence végétale en ville, pour moi, est assez indispensable. Et moi, je le vois aussi quand j'habite à Paris. Dès qu'il fait beau, dès qu'il y a un petit mètre carré de pelouse ou avec un arbre, c'est pris d'assaut par tout le monde, sur les bords de la Seine, même dans les endroits qui ne sont pas très beaux. Je veux dire, au pied de Jussieu, c'est pas très beau, mais il y a quelques arbres, donc pouf, il y a des gens qui viennent se mettre là. Les buts de Chaumont, ça devient un cauchemar, parce que justement, il y a plus de gens que de verdure, quoi. Mais donc voilà, j'ai l'impression que c'est quand même une demande assez générale
d'avoir plus...
Oui, c'est le dernier grand projet de Paris, ça, d'ailleurs.
Ouais.
De
rejoindre mais parfois, même limite de l'absurde.
Et la Tour Eiffel.
Végétaliser le pont et tout le passage entre la Tour Eiffel et le Trocadéro, il y a un moment, ça devient un peu absurde. Quoi. Ça reste un pont, quand même. C'est pas non plus une promenade c'est une plantée. Forêt, enfin, c'est pas la même chose.
Oui, c'est ça. Très bien. Alors, je vois le temps qui passe. Il va nous rester 5 minutes pour éventuellement des questions du public, des remarques. Voilà, sur cette table ronde qui est très riche avec vraiment des questions qui nous touchent tous. Donc, est-ce que vous avez des questions? Alors, par contre, si vous avez des questions, vous allez venir ici, on va vous donner le micro, parce que sinon, on ne vous entendra pas. Oui, venez. Pierre, tu peux faire passer le micro, s'il te plaît. Merci. Voilà.
Merci. Moi, je me posais la question de la végétalisation des villes au sens... comment dirais-je, vous savez, les murs végétaux, et y compris leur utilisation pour de l'agriculture, donc pour de, je ne vais pas dire de l'autosuffisance, parce que je pense qu'il faudrait vraiment y mettre la quantité, mais voilà.
Vous parlez peut-être des... Non, enfin, ce n'est pas sur les murs qui veulent... Si, c'est pas...
Sur les murs, sur les toits, sur les parois de toute nature.
Oui, oui.
Voilà, donc je me demandais si ça, c'est ce que vous en pensiez, soit en tant qu'auteur, artiste, voilà, ou architecte.
On va peut-être demander, allez-y, notre architecte.
Souvent, c'est un petit peu de la poudre aux yeux aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est plutôt toutes ces tentatives-là, ou ces essais, ces expériences, sont plutôt faites pour essayer de sensibiliser, c'est pareil, ça rejoint à la table ronde de tout à l'heure, plutôt pour à la fin, j'ai assisté à la fin, pour que les gens prennent conscience d'eux, etc. Après, en termes de rentabilité, enfin de rentabilité, de oui, est-ce qu'il peut y avoir un rendement pour nourrir des gens avec ça? A priori, non, c'est pas possible. Et là encore, tout à l'heure, Laurent disait, la ville... En soi, c'est artificiel, c'est quelque chose. Alors aujourd'hui, essayer de refaire quelque chose de végétal, ça sera du végétal artificiel. Alors pour qu'il puisse nourrir vraiment les gens, il va falloir le transformer au point de vue génétique et autres, et faire des choses qu'on n'a plus non plus envie de faire.
Ok. Est-ce que... Oui.
Vas-y. Je m'y connais pas, mais je crois que pour des questions de rendement... Je ne pense pas que les murs végétaux soient vraiment la solution idéale. Et je crois que ça consomme énormément en plus d'eau. Enfin, c'est très compliqué. Donc, et puis, au-delà de ça, c'est vrai que moi, à la limite, je préférais qu'il y ait moins de constructions qui poussent partout aux entrées des villes, que ça se répande en nappe d'huile comme ça, mais que le bâti reste du bâti. En fait, moi, j'aime bien que les choses... Autant, je trouve ça très intéressant quand parfois, on ne sait plus tellement où ça commence, où ça se termine. Pierre parlait d'Angkor tout à l'heure. Ça, c'est vrai que je trouve ça absolument fascinant. Mais j'aime bien aussi qu'un bâtiment, une construction architecturale, reste une construction architecturale. Elle a une qualité qui ne peut pas être donnée par quelque chose d'autre. Toutes les expressions artistiques, puisque l'architecture est un art, quand même, ont une qualité qui leur est propre. Et je trouve ça presque dommage de vouloir les travestir et en faire quelque chose d'autre. Moi, j'ai un plaisir à voir de l'architecture, de l'urbanisme, qui n'est pas remplaçable par d'autres types de plaisirs. Et celui-là, je n'ai pas envie qu'on l'abîme, quoi, tout simplement.
Alors, la question revient à l'autonomie des villes sur le plan de l'alimentaire. C'est-à-dire que les villes sont extrêmement fragiles. Ce sont les éléments les plus fragiles de la civilisation, parce que finalement, c'est très facile de couper l'approvisionnement d'une ville. Hein. C'est à vous empêcher les gens de transporter les marchandises à l'intérieur de la ville, et c'est terminé pour la ville. Alors, c'était les sièges dans l'ancien temps, c'est tout ce qu'ils faisaient. Ils s'installaient autour de la ville, attendant que les gens meurent de faim tranquillement pour pouvoir se rendre et récupérer la ville. Donc effectivement, c'est une question très importante. Je pense qu'il faudrait essayer, d'une façon ou d'une autre, peut-être par des ceintures alimentaires très proches, sécuriser toutes les villes sur le plan alimentaire. Je ne sais pas comment ça peut se faire, mais de faire dépendre toutes ces énormes structures.
Une sorte des maraîchers, comme il y avait il y a quelques dizaines d'années.
Oui, tout autour de la ville, qu'il y ait le moins de transport possible. Parce que je vois ces énormes agglomérations avec 20, 30, 40 millions de personnes sont quand même d'une fragilité extraordinaire. Extraordinaire. Donc, c'est vrai qu'il faudrait réfléchir à une façon d'autonomiser les villes sur le plan alimentaire, d'urgence, pour éviter déjà l'empreinte carbone de tous les transports qui amènent les choses à la ville. Et donc ça, ça me paraît vital. Après, comment le faire, je ne sais pas. C'est vrai qu'on a parlé à un moment des tours avec tous les sommets plats cultivables. Pourquoi pas? Je ne sais pas si ça peut s'étudier, mais on est en... Je crois en France, on n'est pas tellement pour les tours pour l'instant, même si Paris essaie de relancer un peu le projet des tours. Donc je ne sais pas comment c'est possible, mais ça me paraît être une question essentielle.
Ok, on a le temps pour une question encore, mais si on n'a pas, on laissera à Pierre Bordage le mot de la fin.
Bah non.
Si, si.
Je ne veux pas. Après, vous allez dire que je suis spécialiste des fins du monde, alors non. Je ne veux pas être fin des conférences non plus.
Bien, bon, ben, je crois qu'on va remercier nos intervenants. De toute façon, vous pouvez les retrouver aussi sur le festival et puis bien sûr lors des dédicaces dans la Butte du Livre. Donc merci à vous, messieurs. C'était vraiment une haute tenue de table ronde. Voilà, merci beaucoup.
Merci.